radiovostok.ch.
Encaisser une accélération, parler de fast-food, de speed dating, de haut débit, de big data, de flash crash. S'énerver sur la lenteur d'une bande passante, encaisser plusieurs accélérations. Vouloir décélérer. Apprendre qu'en musique aussi, le crescendo est plus facile que le décrescendo. Perdre dans cette accélération de l'accélération la possibilité même de séparer la vie et le travail. Comprendre que le trading haute fréquence, c'est 7000 transactions boursières le temps d'un clignement d'œil. Chercher à comprendre, alors simplement comprendre cela, la conservation moyenne d'un titre en bourse se compte en secondes, alors qu'elle se comptait en années il y a peu. Tout faire vite, préparation, répétition, représentation. Lire que la durée moyenne d'un plan de cinéma est passée de 7 à 3 secondes en 30 ans. Sentir que tout cela commence à nous peser sur l'estomac. Lire que la loi de Moore, qui dit que la puissance des puces électroniques double tous les 18 mois, est dépassée. Savoir tout sur tout et tous à chaque moment. Se demander pourquoi la festivalisation des arts. Jusqu'à quand les disruptions? Comment la lenteur? Bienvenue à Station Debout, la radio de danse proposée par la chorégraphe Cindy Van Acker et l'Association pour la danse contemporaine à Genève. Aujourd'hui, deuxième émission sur l'accélération. Toujours en partenariat avec Radio Vostok à Genève et Du Radio en France. Autour de la table, Barbara Métaïs-Chastanier, Jérémy Narbi et Michel Pralon. Barbara, Jérémy, bonjour.
Bonjour.
Je vais vous présenter rapidement. Alors Barbara Métaïs-Chastanier, Barbara, tu t'es formée à l'École Normale Supérieure de Lyon, une formation théâtrale autant théorique que pratique. Car en fait, tu cumules les statuts, les positions et les casquettes. Tu es à la fois auteur, dramaturge et enseignante-chercheuse. Tu as travaillé ces dernières années aux côtés notamment de Gwenaëlle Morin et de Céline Massol. Avec Gwenaëlle Morin, c'était un compagnonnage autour de cette très belle aventure du théâtre du Point du Jour, en tant que dramaturge, metteur en scène et rédactrice, je crois. Tu es aussi maîtresse de conférences en littérature française à l'Université d'Albi et actuellement artiste associée à l'empreinte Scène nationale de Brive-Tulle. Et puis j'ai envie de citer le titre de ton doctorat, parce que j'aimerais bien qu'on parle peut-être d'une des thématiques qu'il charrie. Le titre, c'est L'enquête à l'œuvre, la représentation inquiétée dans les dramaturgies contemporaines. Et c'est cette idée d'enquête qui m'intéresse parce que du côté de Jérémy, on a aussi des recherches qu'il a étiquetées sous le terme d'enquête. Et puis, Barbara, tu travailles actuellement, et d'ailleurs merci d'avoir fait le voyage pour être avec nous aujourd'hui, à un projet qui sera présenté en janvier à Montpellier, puis à Aubervilliers. Et c'est une fiction d'anticipation climatique au théâtre, et ça s'appelle « De quoi hier sera fait ?». Et puis je me tourne vers Jérémy Narbi, qui est donc anthropologue, activiste. Lors de ton doctorat à Stanford, tu as passé en fait 2 ans dans la forêt amazonienne péruvienne avec les Achaninka, où tu as vécu une expérience de recherche assez forte qui t'a amené à justement une enquête sur les plantes qui communiquent. Je te cite. Enquête qui a duré 10 ans et que l'on peut suivre dans ce livre assez haletant qui s'appelle Le serpent cosmique, l'ADN et les origines du savoir. C'est un livre qui est paru en 95, mais qui a eu une vie assez riche, puisqu'il est traduit en plus de 10 langues, et qu'il vient de paraître à nouveau en français en 2019. Tu travailles depuis 1989 sur mandat pour l'ONG suisse Nouvelle Planète à la défense des peuples indigènes. Et j'ai envie de commencer peut-être avec toi, Jérémy, pour comprendre un petit peu de quoi sont faites tes journées en tant qu'anthropologue qui a fait des recherches et qui continue à faire des recherches et à vivre avec des peuples indigènes d'Amazonie, qui vit par ailleurs en Suisse et qui a cette charge de représenter Nouvelle Planète, d'écrire. De quoi sont faites tes journées, Jérémy ?
Concrètement, je passe mon temps à récolter des fonds pour des initiatives formulées par les peuples amazoniens, surtout en Amazonie péruvienne. Et ça revient 11 mois par an à être devant mon ordinateur et entouré par mes bouquins, mais quand même à écrire des rapports. Je dirais que c'est un peu comme une sorte de travail de Robin des Bois bureaucratique. Ça veut dire on essaie d'aller où il y a des fonds, en Suisse, au Liechtenstein, on explique. Et le travail de l'anthropologue, c'est d'être un traducteur, c'est de rendre les Amazoniens compréhensibles à des fondations européennes et de rendre les fondations européennes compréhensibles au peuple amazonien, parce que ça marche dans les deux sens. Il faut rendre des comptes. Et en même temps, tout ça, c'est pour financer des initiatives, des programmes pour démarquer des territoires. Il faut payer des topographes, acheter du carburant et ainsi de suite, ou mettre en place des programmes d'éducation bilingue et interculturelle pour ces peuples où ils peuvent former des enseignants indigènes qui enseignent dans leur langue et culture, ainsi qu'en espagnol et en sciences. Tout ça, il faut des ressources humaines, c'est 80% des salaires pour simplement chaque peuple a besoin de son propre curriculum, et ce sont des peuples qui sont des cultures orales à la base, donc pour pouvoir transmettre leur langue et leur culture à leurs enfants dans les écoles, il faut mettre tout ça par écrit. Donc ça présuppose quand même quelque chose comme 200 000 francs suisses par peuple pour pouvoir réaliser un curriculum, et c'est un travail qui se fait sur... maintenant, on soutient ce programme en Amazonie péruvienne depuis 25 ans, et donc ça veut dire tous les 6 mois écrire des rapports intermédiaires, rendre des comptes, et je suis un brasseur de papier professionnel pour répondre à ta question.
Et qui est un pendulaire entre l'Europe, la Suisse, et puis ces régions.
J'ai une fois par an au Pérou, mais en gros, il s'agit de laisser les gens travailler, et puis de temps en temps venir vérifier que le travail s'est fait, de ne pas toujours être derrière. Il faut y aller régulièrement, mais pas trop souvent.
Et si on parle en termes de traduction, tu parlais de traduction, de faire passer par rapport à la thématique qui nous intéresse, quelles sont les structures du temps dans ces peuples indigènes du Pérou? Quels sont les rythmes ou les repères? En quoi est-ce qu'il y a des différences par rapport à...
Alors, au cours des dernières générations, les gens ont quand même... C'était presque une des premières choses qu'on faisait si on était un indigène amazonien pour montrer qu'on était quand même un peu civilisé, c'est qu'on avait une montre. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que souvent, les gens avaient des montres bon marché qui cassaient, mais ensuite, ils les gardaient quand même. C'est-à-dire, peu importe si ça tourne ou pas. Mais les gens se donnaient rendez-vous à quand la nouvelle lune sera là ou quand l'ayahuma fleurira. C'est-à-dire qu'il y a quand même... C'est des gens qui se repéraient par rapport au cycle de la nature. Et une première différence entre l'Amazonie péruvienne et ici, c'est que sur l'équateur, les jours durent la même chose que les nuits, tout le temps. Donc vous n'avez pas vraiment ces saisons. Bon, des fois...
Pas de variation marquée, en fait.
Disons, pour eux, les saisons, c'est la saison des pluies ou la saison de quand il fait sec. Et normalement, c'était des saisons assez définies, genre la saison sèche, elle est de juin à octobre. Sauf qu'au mois de juillet, quand il pleuvait, les gens disaient « Ah, beaucoup d'hiver aujourd'hui ». C'est-à-dire que, oui, ils avaient le concept, ils utilisaient les mots espagnols pour été et hiver, mais ils appliquaient ça en fonction de la pluie et du beau temps, finalement. Et tandis que chez nous, je pense qu'avec plus on va vers le nord ou vers le sud et qu'il y a de la variation au niveau de la durée de la journée et aussi des saisons, plus il y a peut-être une obsession à vouloir être précis au niveau des cycles qui existent.
Alors, quand je t'ai proposé cette invitation pour réfléchir un peu à l'accélération et à ce que le temps nous fait, tu es allé regarder dans la littérature de l'ethnographie classique, et puis tu me disais que c'était finalement ces questions de vitesse ou de temps, quelque chose qui était assez peu décrit, étudié. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Tu as une idée de...
Oui, je pense que les gens qui ont écrit les ethnographies sont des Occidentaux, donc c'est des gens qui viennent comme nous d'une culture relativement obsédée par le fait de vouloir mesurer le temps, d'avoir des concepts de plus en plus précis de temps, des semaines, des années, des heures, etc. Et quand on arrive chez les peuples amazoniens, finalement, tous ces concepts-là n'existent pas. Donc c'est difficile d'observer quelque chose qui n'existe pas. Et c'est vrai que quand on regarde les ethnographies classiques, il y a relativement peu d'emphase sur les conceptions du temps chez les indigènes, simplement parce qu'ils n'avaient pas les conceptions classiques de ce que les Occidentaux considéraient comme étant du temps. Dans la mesure qu'on parle d'un futur, on est en train de parler d'un futur qui est en rapport avec les générations existantes, qui est en rapport avec les autres espèces. Finalement, c'est lié à la façon de regarder le monde qui n'est pas nécessairement le même que la façon européenne classique de regarder le monde où la nature et la culture sont des choses très séparées et ainsi de suite. Donc, le temps n'est pas la première dimension évidente sur laquelle on mettrait l'emphase quand on arrive dans ces sociétés. Et encore une fois, justement, la nuit et le jour étant très similaires, les saisons n'étant pas très différenciées, c'est pas vraiment quelque chose qui fait partie de leur quotidien autant que chez nous.
Ouais. Alors, si on fait un grand saut du côté de Barbara, toi, tu m'as dit, quand on a parlé la première fois, tu m'as dit, en fait, je viens de vivre un an et demi en 2047. Étant sur cette construction de science-fiction pour cette pièce, ce qui est à la fois une accélération temporelle forte, et puis peut-être aussi un ralentissement, parce qu'on peut imaginer que tu t'es installé dans un espace fictif et que peut-être il y a un effet de protection par rapport aux sursollicitations et aux bombardements que j'essayais d'évoquer tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé alors avec ce grand saut en avant?
C'était un projet d'écriture à la base. J'avais écrit un premier volet dans le cadre d'un projet sur la question des utopies concrètes et des vies justes ou en quête de justesse. Je m'étais intéressée d'abord à des formes de vie différentes, alternatives, dans un contexte qui était plutôt rural. J'avais passé beaucoup de temps dans des fermes autogérées. J'avais passé du temps, à vivre avec des gens qui avaient essayé d'inventer des vies différentes. Et je m'étais beaucoup inspirée du texte de Thomas More de l'Utopia, qui est un dispositif assez simple. En fait, c'est le récit d'un étranger qui permet de décrire un monde différent. Donc moi, mon étranger, c'était un thésard en philosophie qui essayait d'identifier comme ça des changements progressifs qui s'effectuaient en lui par porosité. Et puis, au bout de, je sais plus, peut-être un an après l'avoir écrit, je me suis dit, mais c'est un texte étrange parce que moi, les comédiens, la metteuse en scène, on habite tous en ville. C'est des villes moyennes ou c'est des grandes villes, mais on est soumis à des conditions d'expérience qui sont quand même très, très différentes. Même si on rêve plus ou moins d'aller se mettre au vert, on a quand même fait le choix d'être des êtres urbains. Et donc, en partant du principe que c'était pas qu'un choix d'aliénation, on s'est dit, bon, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre d'une possibilité d'expérience qui nous est quand même offerte par ces espaces-là. Et si cette expérience existe, quelle est-elle? Et puis, en tirant le fil de cette question, je suis tombée sur le deuxième grand genre de l'utopie, qui est la science-fiction. Et donc, je me suis dit, j'ai jamais écrit de science-fiction si j'essayais de voir ce que produit un effet de décentrement. Un décentrement qui serait plus géographique, mais qui serait cette fois temporel. Et donc, je suis partie d'une situation de pas de côté, mais chronologique, en essayant de regarder aujourd'hui, depuis le futur, pour essayer de voir ce que ça permettait de tisser aussi comme expérience du présent, parce que je crois que la séquence historique, politique, sociale, écologique qu'on est en train de vivre, elle est aussi très caractérisée par un effet de crise d'avenir, enfin, qui est un terme qu'on revoit très souvent. Et donc l'idée, c'était d'essayer de trouver quels étaient les ressorts d'écriture, des ressorts poétiques, qui permettaient de se dégager d'une lecture qui serait celle d'un pur effondrement, ou qui serait celle d'un nihilisme radical, ou qui serait celle d'une sensation de mur, en fait,
Pour passer au-delà et puis de là essayer d'imaginer un monde qui perdure.
Bah, d'imaginer aussi qu'est-ce qui se passe quand on regarde le présent à partir d'une condition de transformation. On le regarde pas de la même façon que quand on l'envisage comme étant une flèche de temps qui est déterminée et déjà écrite. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, on est quand même vraiment pris en étau, en tout cas dans un imaginaire très occidental. On est vraiment pris en étau par cette espèce de tenue comme ça, très féroce, d'une sorte de ligne qui serait comme déjà écrite et que... Pour moi, en termes d'écriture, je dirais qu'il y avait un enjeu à faire ça. Mais donc, ça produit des situations d'expérience très bizarres parce que, oui, moi, je vivais en 2047. C'est-à-dire, j'avais inventé toute ma chronologie. Mais d'une certaine façon, c'est des situations que vous avez vécues aussi, puisque dans la lecture que j'ai pu faire du projet de Bible, on peut percevoir aussi cette expérience-là du saut temporel comme étant une façon aussi de s'émanciper du présent et de son assignation à résidence.
Juste pour préciser, il s'agit là d'une Bible, d'une série théâtrale et non pas de la Bible des évangiles, etc. Et puis, j'ai une question dans cette fiction en 2047. Comment est le temps? Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas si c'est une écriture collective ou si c'est vraiment ton fait de ce dont qu'on essaye un peu d'attraper aujourd'hui, ces idées d'accélération, de course en avant, du juste à temps dans lequel on se sent tous un peu pris.
Ce qui est complexe dans un travail d'écriture comme celui-ci, c'est que c'est une proposition fragile, singulière, et qui n'a pas du tout vocation à l'exemplarité. Donc c'est une hypothèse, en fait,
qui se
travaille
on est dans une fiction.
De l'intérieur et qui essaye de déployer une mise en jeu d'alternative ou d'altérité, de s'imaginer sous condition de transformation. Le temps, je ne sais pas s'il est décéléré, mais il est aussi très théâtral, donc c'est un futur hypothétique qui est trahi par son rêve à partir du présent. Donc il est aussi très chargé de ce qui fait notre temps théâtral aujourd'hui. Là, on est en répétition, donc le texte est encore une matière assez instable. La création, elle aura lieu en mi-janvier. Donc c'est un peu difficile de répondre dans la mesure où là, on commence à travailler sur la troisième partie, qui est vraiment la partie qui se passe en 2047, et que pour l'instant, on a travaillé sur la première et la deuxième partie, qui se passe en 2019 et en 2026, qui sont vraiment les moments où s'opère une transformation, un passage à l'acte, donc où la question aussi du saut utopique, du saut de transformation est pas encore complètement engagé. Donc c'est écrit dans la fiction, mais comment ça va se passer réellement théâtralement? Est-ce qu'on peut dégager une autre qualité du temps dans un temps qui est celui de la représentation? Je ne sais pas.
C'est un défi.
C'est ça.
Jérémy, toi qui te dis aussi constructeur de récits, enfin tu racontes des récits pour faire comprendre ce que peuvent être les enjeux qui sont liés à ces peuples indigènes. Quand on parle comme ça d'un grand futur, est-ce que ça active tes envies de récit, justement?
Pas vraiment, parce que le choix que je fais depuis le début, c'est déjà d'être dans la non-fiction. Donc c'est ce qu'on appelle la non-fiction narrative. Donc je raconte des histoires.
C'est plus anglo-saxon que francophone. Mais...
Narrative non-fiction. Mm-hmm. Voilà ce que je fais. Et puis donc ça veut dire que c'est un pari qui s'attelle au réel, entre guillemets. Donc finalement qui respecte tous les domaines, la biologie, la chimie, de ce que la science peut déterminer. La réalité que l'on peut connaître et vérifier dans le présent est déjà d'une effarante complexité. On ne sait même pas comment notre propre cerveau fonctionne. On peut estimer le nombre de neurones, mais comment est-ce que notre conscience résulte des interagissements de ces neurones nous échappe encore? Et donc il y a tellement de choses à sonder sur la planète Terre à portée de main et à essayer de comprendre. Déjà le nombre d'espèces vivantes nous échappe. La science a peut-être répertorié le 10% des espèces vivantes. Les vivants dans la mer, par exemple, les fonds marins sont aussi inconnus que les surfaces des autres planètes. Donc il y a vraiment de quoi faire à simplement comprendre le réel ici et maintenant. de quoi l'avenir sera fait. On laisse ça à ceux qui ont des imaginations et qui font de la fiction. Moi, j'adore la science-fiction et je trouve qu'une bonne fiction spéculative est utile aussi, mais on peut pas tout faire. Et franchement, bon, ça fait un peu bizarre à dire, mais je m'interdis de lire de la fiction. Voilà, c'est mon coming out à la DC.
Mais tu viens de dire que tu aimes la science-fiction, donc.
Oui, non, mais c'est-à-dire que je regarde des films de science-fiction. Le genre, j'aime
pas,
bien le genre. Mais non, mais parce que en fait, il y a tellement de choses à lire au niveau de que ce soit de l'anthropologie ou de la biologie. En fait, moi, je vais même pas en physique, juste l'anthropologie et la biologie. Et ça apprend parce qu'il y a tellement de recherches en cours et tellement de choses fascinantes. C'est-à-dire, moi, j'aimerais déjà comprendre comment est-ce qu'une amibe fonctionne.
Mais peut-être tu pourrais nous raconter ça, en fait, l'histoire que tu développes sur ces 10 ans de recherche dans le serpent cosmique. Et si j'ai bien compris, donc tu es arrivé dans en Amazonie péruvienne, et puis tu t'intéressais dans le fond à la richesse botanique et aux connaissances botaniques de ces peuples. Et puis quand tu leur demandais d'où elles venaient, ben, on t'a répondu, ce sont les expériences hallucinogènes qu'on peut faire avec certaines plantes qui nous apprennent les propriétés des plantes. Donc en fait, c'est d'elles-mêmes des plantes, des végétaux, qu'on apprend ça. Et puis évidemment, ça a été une réponse un tout petit peu surprenante pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le début de cette enquête, justement ?
Oui, alors effectivement, voici des gens qui vivent dans le milieu biologique le plus diversifié de la planète. C'est l'épicentre mondial de la biodiversité. C'est des gens qui ont plus de mots dans leur langue pour les plantes qui se trouvent dans ce milieu que la science a de mots en latin pour ces mêmes plantes. C'est-à-dire que ces gens-là connaissent beaucoup mieux leur milieu que les ethnobotanistes. Non seulement ils ont des noms pour les plantes, mais ils attribuent des usages à la moitié d'entre elles. Et quand on leur demande d'où vient votre connaissance des plantes, ils disent « Nos chamans prennent de l'ayahuasca, mangent du tabac, et dans leur vision, ils voient les essences qui animent l'ensemble des êtres vivants et qui sont des sources d'informations. » Donc ça, c'était quand même un mystère dans le sens que l'industrie pharmaceutique reconnaît la pertinence de leur savoir botanique, mais eux-mêmes attribuent une partie de leur connaissance botanique ce qu'on appellerait les hallucinations de leur chaman. Et ça, c'était carrément une impossibilité au niveau de la connaissance occidentale, parce que si vous croyez qu'il y a de l'information vérifiable dans les hallucinations, c'est que vous êtes psychotique par définition. Donc, c'était déjà une question, on va dire, intellectuellement intéressante et qui défiait les catégories de la connaissance occidentale. Rien que pour ça, c'est intéressant. Mais à part ça, ça parlait des capacités de la conscience modifiée, qui pose aussi la question de la conscience tout court. Encore une fois, comment est-ce que la conscience normale fonctionne ? Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on ne maîtrise pas très bien ce qui se passe dans le cerveau lorsque le cerveau nous donne une image de ce que nos yeux voient avec les yeux ouverts. On sait qu'il y a des neurones qui interagissent, mais concrètement, comment est-ce que l'image surgit créée par le cerveau ? C'est encore mal compris. Comment est-ce que le cerveau voit des images lorsque les yeux sont fermés et qu'un chaman est en train d'avoir des visions? C'est encore plus mystérieux. Et on voit que la science occidentale, d'ailleurs, est relativement larguée en ce qui concerne la compréhension de la conscience modifiée, alors que les chamans amazoniens et autres naviguent dans ces espaces et en retirent de l'information, d'après ce qu'ils disent, depuis longtemps. Donc, il y avait de quoi amplement nourrir un désir d'investigation sur le sujet.
Barbara, ces récits de non seulement de conscience modifiée, mais de dialogue en fait avec des végétaux, par exemple, c'est quelque chose que tu as pris et que tu développes dans cette fiction d'anticipation.
Je ne sais pas si je la développe spécifiquement dans cette fiction d'anticipation, mais je pense que ça fait partie des questionnements qui travaillent très clairement mon écriture depuis plusieurs années, de manière très différente. Je pense qu'il y a eu un effet de prise de conscience il y a 10 ans, en fait, en 2007, quand je suis tombée sur le rapport du GIEC. Et à la suite de ça, j'ai écrit une sorte de première pièce dans un état peut-être de conscience altérée, je sais pas, qui était celui peut-être aussi de l'effarement, ouais, qui était vraiment un texte où j'ai pas maîtrisé grand-chose, mais qui, je pense, était déjà une forme d'exploration de ça. Mais ça a été un processus extrêmement long, parce que je pense que j'ai grandi aussi dans un contexte où le rapport au savoir rationnel était extrêmement valorisé. C'était aussi un outil d'émancipation sociale. Donc j'ai mis du temps à déconstruire, en fait, ces cadres-là, pour pouvoir même revaloriser des choses qui existaient dans des savoirs ruraux, par exemple dans ma famille, que j'avais complètement mis de côté, oblitéré, ou que je regardais avec du mépris.
Dans le rapport aux animaux, aux végétaux,
ouais,
tout le non-humain.
Je sais plus qui faisait la blague sur Châtaigne, mais voilà, une partie de ma famille est originaire d'Ardèche. Enfin, moi, j'avais des grands-parents qui étaient des rebouteux, qui cherchaient de l'eau. Et je sais que pendant toute une partie de mon adolescence, et puis pendant ma formation, j'ai eu pendant très longtemps honte, en fait, de cette origine sociale et des savoirs qui étaient rattachés, en fait, à ces pratiques-là. Et je trouve ça intéressant de voir aussi comment le contexte aujourd'hui, il permet de travailler à regarder différemment ces répartitions-là, en fait, entre des savoirs qui seraient d'illégitimes, des savoirs dits illégitimes, et de voir comment ensuite ça peut opérer dans le champ de l'écriture. Donc, je sais pas si c'est perceptible dans l'écriture, mais dans ma vie, ça l'est. Mmh.
Mais cette déconstruction des savoirs rationnels, tu as dû la mener aussi, Jérémy, en arrivant là-bas.
C'est plutôt en revenant, je dois dire, parce que je me considère encore comme un rationaliste cuit dur. Et puis donc j'ai toujours voulu simplement comprendre comment les choses marchaient. Et c'est vrai que en arrivant chez les Achaninka, il y avait plein de choses plein d'expériences. Déjà, une première expérience d'ayahuasca, les gens me disaient, si tu veux, en fin de compte, comprendre les questions que tu poses, genre, comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait sur les plantes, eh bien, tu dois boire de l'ayahuasca. Voilà. Et effectivement, ma première expérience, et c'est pas pour faire l'apologie de la substance, mais quand même, ça faisait partie de la trajectoire. En suivant ce que ces gens disaient, qu'il fallait boire leur décoction de plantes hallucinogènes pour comprendre leur point de vue, effectivement, cette expérience m'a ouvert à un monde effarant qui était difficile à rationaliser, et d'ailleurs que j'ai passé sous silence dans la thèse de doctorat en anthropologie que j'ai fini par écrire. Mais effectivement, il y avait là une sorte de monde qui était trop puissant, trop plein d'informations, avec des couleurs trop intenses,
trop réelles, trop situées, trop
vite pour un pauvre être humain. D'ailleurs, la première la chose que j'ai vue était d'énormes serpents fluorescents qui m'ont expliqué en premier que je n'étais qu'un tout petit être humain. Ça, c'était le début de l'affaire. Et l'écriture du livre, 8 ans plus tard, c'était un essai de dire, bon, qu'est-ce que c'était que tout ça ? Voilà, on reprend depuis le début, on regarde ce que la science aussi en dit. Et finalement, c'est pas une déconstruction du rationalisme, c'est plutôt voyons tout ce que la science rationnelle dit d'un côté, voyons ce que les chamans disent de l'autre. On déconstruit personne, et on peut mettre en rapport, d'ailleurs, ces deux grilles de lecture pour voir que elles se complètent.
Mmh. On va peut-être faire une petite pause avec une plage musicale que tu nous as proposée, Jérémy. Est-ce que tu peux la expliquer, enfin la présenter?
Oui, alors bon, on pourrait craindre le népotisme, parce que c'est le morceau que mon fils de 23 ans, Gaspard, a remixé. Mais quand tu m'as invité à venir parler du sujet du temps et du fait de choisir un morceau, ce morceau m'a sauté à la tête, parce que il travaillait avec des boucles. Et il remixe un morceau du dernier disque des Young Gods, un groupe genevois, puis ça m'a paru couler de source d'écouter ce que ce jeune artiste basé à Londres fait avec de la musique genevoise.
Alors le titre ?
Tear Up the Red Sky Remix.
c'est le film. Decipher codes in the sky. Here we are, so pentagon. A canvas bag on the head. A canvas bag on the head.
Radio-Vostok.ch
Je vais revenir vers Barbara Métaïs-Chastanier. Je t'ai cité dans l'émission précédente parce que tu valorises les arts de la scène comme des pratiques que tu dis de fragilité, de relation, de l'impermanence, de l'écoute, du dialogue, et qui sont extrêmement importantes aujourd'hui pour justement essayer de comprendre comment est-ce qu'on se projette dans ce monde où toutes les relations sont à remettre en jeu. Et puis en même temps, tu notais le fait qu'il pour tout cela, il faut du temps. Et que, en fait, on est maintenant sous une pression liée au rendement, justement à l'accélération, à la productivité, et que dans ce contexte, je te cite, ce sont les œuvres les moins nuisibles au système, donc les plus consensuelles ou inoffensives, qui vont circuler le plus. C'est un constat assez assez fort. Est-ce que tu voudrais développer un tout petit peu cette remarque ?
Oui, c'est un constat un peu. Un peu déprimant, c'est pas un diagnostic inédit que de dire qu'aujourd'hui les arts de la scène participent de manière assez générale au tournant néolibéral.
Mais est-ce qu'en changeant les régimes de travail, est-ce qu'en parlant de durée plus longue, est-ce que c'est justement dans cette réalité temporelle que peut-être on peut trouver
Moi, d'autres je pense modes. Que c'est pas la seule. Je pense pas que ce soit le seul plan sur lequel on puisse réellement transformer les choses. Je pense que tout est à revoir. À la fois les modes de production, les modes de circulation, la façon qu'on a d'envisager les opérations dont on se rapporte aujourd'hui aux œuvres. Enfin, j'ai la sensation qu'il y a un gros travail de réinvention à engager. Et c'est des expériences qui sont aussi nourries par. Par exemple, par mon travail aux côtés de Gwenaëlle Morin, le travail de réinvention de ce que peut être une programmation, par exemple, qui a été fait dans le cadre du théâtre permanent.
Oui, qui a bousculé complètement l'idée d'une saison.
Voilà,
en fait,
sans faire un modèle en soi, mais juste comme étant une tentative d'expérimentation de jusqu'où on peut essayer d'aller, pour moi, est assez représentatif de la façon dont on est en fait très tenu à un cahier des charges qui est quasiment préécrit.
Tu peux juste rappeler le modèle justement de la fréquence et de entre le travail, la présentation publique.
Ouais, le principe du théâtre permanent tel que l'avait imaginé Gwenaëlle Morin consistait à créer avec insistance, obstination et en s'exposant à l'urgence, ce qui est quand même intéressant, du temps et de l'espace public. Et il articulait clairement les deux en mettant en regard à la fois la question de la transmission, la question de la représentation et la question de la répétition. L'idée, c'était d'occuper un même espace du matin jusqu'au soir en se confrontant à la fois à l'amplitude, à la générosité, à la difficulté à laquelle on est acculé quand on travaille des chefs-d'œuvre du répertoire du domaine public, dans un espace-temps qui était quand même assez court. Le théâtre permanent avait accentué, je dirais, la vitesse d'urgence qui avait été explorée au laboratoire d'Aubervilliers en 2009, puisqu'en 2009, c'était une pièce qui était explorée et mise en scène tous les deux mois. Pendant un an, et dans le cadre du théâtre permanent, la première année à Lyon, c'était une pièce tous les mois qui était travaillée, traversée. Mais ça fait qu'on sort aussi de l'idée de représentation, c'est-à-dire que l'idée même d'objet théâtral est altérée par ce processus-là, puisque le spectacle changeait tous les soirs.
En fait, les répétitions sont ouvertes.
Les répétitions n'étaient pas ouvertes. Non. Le matin, il y avait des ateliers de transmission. L'après-midi, il y avait des répétitions pour le spectacle du soir. Puis ensuite, mise en jeu du spectacle du mois d'après. Mais la répétition, en fait, était à ciel ouvert dans la mesure où il y avait une continuité presque entre le spectacle et la répétition. C'est pas pour en faire un modèle de ce qu'il faudrait faire. Mais je trouve ça intéressant.
C'est exemplaire dans le fait de décaler, de dérythmer, et puis dans la production et dans la réception, créer de nouvelles attentes et de nouvelles.
Et puis de se dire que le théâtre est pas un punctum. Enfin, il y a aussi, quand on parle, quand on s'intéresse un peu à poser des questions autour d'un théâtre, est-ce que vous savez ce qui se passe ici? On est capable de dire, même si on mange pas de pain, qu'on est allergique au gluten, on peut dire ce qui se passe dans une boulangerie, même si on n'aime pas la piscine, on sait ce qui s'y passe. Un théâtre, il y a une espèce de magie comme ça qui fait que on ne sait pas exactement de quoi est fait le temps, si ce n'est pendant le temps de la représentation. Et je crois que c'est aussi un des gros enjeux d'arriver à donner une consistance à ce temps-là, Et une consistance, c'est aussi une façon de pouvoir le partager. Donc par quoi ça passe? Comment est-ce qu'on met en œuvre ces récits-là? Qui les écrit? Comment une émission de radio est une très belle manière aussi de le rendre partageable.
Jérémy, tu es un spectateur de théâtre?
Occasionnellement. Mais c'est vrai que j'habite un peu une région périphérique, donc c'est tout de suite une entreprise d'aller voir du théâtre ou de la danse.
Tu parlais tout à l'heure de des capacités cognitives et de cet inconnu qu'est le cerveau, mais est-ce que vous pensez que justement nos capacités à recevoir ces sursollicitations dans lesquelles auxquelles on est sans cesse exposé, est-ce que ça change aussi notre appétit, notre manière de recevoir, notre désir que tout aille aussi plus vite?
Je pense qu'il y a une question autour de l'ennui qui est, si je parle que des expériences esthétiques ou des objets que je connais les mieux, donc c'est des objets théâtraux, le temps dilaté de l'expérience esthétique, il n'est pas forcément évident dans la mesure où on est comme pris dans une espèce de mécanisme où même en tant que spectateur, on vient chercher une forme d'intensité, on vient chercher une forme d'inédit. Et que je ne sais pas si ça passe par une décélération du temps, peut-être pas nécessairement. C'est pour ça que je parlais aussi de Gwenaëlle Morin, parce que je trouve que cette question de l'urgence, elle est intéressante, parce qu'elle est choisie dans le cas du travail du théâtre permanent.
Il y a une pression, de fait, mais il y a à la fois la pression d'un vif du moment qui est ouvert, de manière très très exposée, et puis en même temps, il y a une année entière où c'est on ça. Peut venir sans cesse.
C'est ça, c'est à la fois une sorte de... C'est comme un fer qui se réchauffait de manière très intense, et en même temps, on sait qu'on a une année pour apprendre à le taper sur la forge, quoi. Donc, il y a à la fois l'urgence de se dire, bon, il ne faut pas que la matière refroidisse trop vite, et en même temps, le temps de l'apprentissage d'un nouveau geste est extrêmement long.
Moi, tout ça, ça me fait penser... c'est peut-être une pensée un peu historique, mais quand mon livre Le Serpent Cosmique est sorti en 1995, c'était les débuts de l'Internet. On commençait à avoir des emails en 95. Avant ça, il y avait le fax. Et pendant que je traitais donc avec des maisons d'édition à New York et comme ça, des fois c'était des fax, des fois c'était des emails, et j'ai commencé à apprendre à connaître le monde du « as soon as possible », dès que possible. Donc, blablabla, on aime beaucoup ce que vous faites, mais on a besoin de ça, ASAP, c'est juste un mot, ASAP. Et au début, as soon as possible, et donc il faut se bouger, et finalement on se rend compte que c'est une forme de dictature. Et donc qui dit as soon as possible, c'est l'autre, et c'est une forme de dominer. Une fois que j'ai compris le truc, assez rapidement, j'ai protesté.
En ne répondant pas.
Non, je sais pas ne pas répondre, mais c'est-à-dire c'est presque une sorte de nouvelle religion. Je refuse as soon as possible. C'est pas comme ça qu'on me parle. C'est surtout pas comme ça que j'ai envie de penser et de vivre. Et donc, à partir du moment que j'ai affaire à des gens qui me parlent comme ça, je tâche de les éviter. Bon, des fois, on peut pas entièrement l'éviter, mais en gros le si c'est comme ça, vous êtes un monde qui veut tout de suite, et moi je veux incarner autre chose.
Mais toi tu défends l'idée que qu'on doit justement se protéger en fait de...
Ah oui.
Mais vraiment c'est nouveau, et puis on doit inventer des techniques de protection. Comme tu me disais, on ne va pas se baigner nu dans une rivière parce que c'est dangereux. On devrait faire en sorte de ne pas être disponible tout le temps, joignable tout le temps.
Oui, parce que, disons, ça, si on réfléchit à, par exemple, comment les Amazoniens pensent au temps, c'est-à-dire quand l'Ayahuma fleurira. Et ensuite, on pense à comment est-ce que les Suisses mesurent le temps. Finalement, une montre, c'est des mouvements mécaniques qui sont basés sur les mouvements de la Terre et autour du Soleil. Donc, tout ça, ça mesure quand même des mouvements. L'Ayahuma fleurit en cycle. Il y a des mouvements, il y a des cycles. Et finalement, une façon d'aborder le temps, la façon amazonienne, n'est pas beaucoup plus abstraite que la façon de l'horlogerie suisse. Tout ça, c'est des cycles et voilà, il faut bien avoir des repères. Je ne pense pas que les Amazoniens sont dans un temps plus lent forcément ou dans un temps plus concret forcément. C'est les mêmes opérations mentales, comme Lévi-Strauss disait. La différence qu'on a dans notre monde maintenant, c'est plutôt que le temps a été oblitéré. À partir du moment que on peut avoir tout de suite, as soon as possible, instantanément, je t'envoie non plus un fax, mais un email, un SMS, je t'appelle, et on est joignable tout le temps par tout le monde et n'importe qui, les cycles disparaissent. C'est pas que le temps s'est accéléré, c'est que le temps a été oblitéré. Et en étant toujours joignable de cette façon-là, on ne maîtrise plus rien et on est en dehors des cycles, que ce soit d'une montre suisse ou de l'ayahuasca qui fleurit finalement. Et ce qu'il s'agit de résister, c'est justement le fait que le temps soit oblitéré et qu'on soit joignable tout le temps et que ce soit toujours as soon as possible. Donc là, c'est vrai que ça me paraît, si on veut avoir une vie, et surtout si on est dans la création, dans la réflexion, on va avoir du temps justement pour réfléchir, pour aller marcher, pour lire. Parce que finalement, vous prenez un livre, c'est incontournablement un certain nombre d'heures qu'il faut passer, ou un certain nombre de jours. Il faut que la planète tourne sur elle-même plusieurs fois pour pouvoir venir à bout du livre. Et voilà, donc, de nos jours, moi je me réfugie dans les trains. J'adore faire Port-Entruy-Genève en train, parce que comme ça, je peux lire. Et oui, il faut mettre le téléphone portable sur silencieux.
On va peut-être écouter le morceau que tu nous as proposé, Barbara. Est-ce que tu veux le présenter ?
Alors, c'est un morceau de Louis-Jean Cormier, qui est un musicien québécois que moi j'aime énormément. Mais c'est un texte écrit par Félix Leclerc, donc qui est un parolier, musicien, voilà, beaucoup plus ancien et historique au Québec. C'est une chanson que j'aime beaucoup et quand tu m'as demandé de réfléchir à une chanson, j'avais celle-ci en tête.
Allons-y.
Nous partirons. Nous partirons seuls, nous partirons, nous partirons seuls, loin, pendant que nos parents dorment, nous prendrons le chemin, nous prendrons notre enfant. Nous partirons seuls, loin,
Radio-Vostok.ch.
Barbara, quelles sont de ton côté les techniques de résistance à ces sollicitations constantes et à l'accélération de notre temps qui parfois nous déréalise un petit peu?
Je rejoins vraiment Jérémy quand tu parlais de sanctuarisation, en tout cas d'une façon de choisir les moments. Qui sont les moments où il y a quelque chose qui apparaît ou qui surgit. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien aussi le temps des répétitions et que moi j'ai adoré travailler au théâtre permanent parce qu'en fait on est tout le temps en création. Donc on a tout le temps une très très bonne raison de pas être disponible et de faire ce qu'on a à faire, de pas répondre à ses emails, de pas répondre à son téléphone, de pas répondre tout court. Et j'ai l'impression que en tout cas pour moi c'est vraiment un des enjeux de me mettre en vacances, mais vraiment au sens pas être en vacances, prendre des vacances, mais d'être en vacances avec des espaces pour un temps vide. Ça peut être lire, ça peut être écrire, ça peut être marcher, chercher les champignons, faire de la méditation, enfin peu importe, mais c'est juste avoir la possibilité d'un espace-temps long, ne pas avoir des horaires qui sont choisis, pouvoir les organiser comme je le souhaite, si c'est travailler 23 heures dans une journée ou si c'est ne pas travailler du tout pendant 3 semaines. Enfin, je crois que c'est, pour moi, c'est vraiment lié à la question de l'effraction, c'est-à-dire que j'aime les temporalités d'urgence, j'aime les sensations des effets parfois de temps raccourci, mais par contre, j'aime pouvoir les choisir. J'aime pouvoir décider des moments où je m'expose à un temps qui serait de l'ordre de l'événement, et j'aime pouvoir m'abandonner à un temps sans consistance ou en tout cas dilué.
Oui, j'ai une petite pensée pour les livreurs de paquets qui sont désormais dans exactement le contraire de cela, c'est-à-dire que ils sont fliqués en permanence au niveau de combien de secondes ils font pour livrer le paquet. Et il semble que plein d'individus qui font ce travail le vivent mal. Et c'est bien la preuve que ça déhumanise à partir du moment qu'on vous mesure en permanence votre temps en vous pressant comme un citron. Voilà, donc en fait, oui, plutôt aller dans ton sens.
Oui, après, ce qui est compliqué, c'est que c'est un luxe que de pouvoir se poser la question en ces termes. Et c'est, je trouve ça très juste aussi que tu parles des travailleurs et travailleuses de ces grandes entreprises qui, en fait, sont écrasées par...
Minutés.
C'est ça. Et c'est pour ça aussi que, enfin, dans l'exemple que tu citais, ça paraissait un peu dur comme constat qui était fait des arts de la scène. Après, je parle plus spécifiquement de ce que je connais aussi, qui est plutôt la France, donc je sais pas du tout ce qu'il en est en Suisse, mais il y a quand même une tendance générale en France, quand on voit la diminution des subventions, quand on voit les violences qui frappent aujourd'hui des grandes structures dites nationales en termes de violences salariales, enfin ces choses-là qu'on pouvait penser être réservées aux espaces de l'entreprise sont en fait aujourd'hui totalement contaminés par ça. J'ai aussi, comme toi, une double casquette d'universitaire, et l'université, c'est aujourd'hui devenu une entreprise chargée de produire un savoir quantifiable. On doit pouvoir rendre lisible des contenus pédagogiques. Et moi, je ne veux pas qu'ils soient lisibles, mes contenus pédagogiques. Justement.
Visible, assimilable.
Ouais. Et pour le coup, je pense que ça fait partie aussi peut-être d'une autre des stratégies. Moi, je suis vraiment pour le braconnage, dans tous les sens du terme. Enfin, aussi bien des champignons que dans les temps qui nous sont attribués. Enfin, de détourner.
Pourtant aussi, des études existent qui montrent que les travailleurs heureux travaillent mieux.
Mais c'est le principe du nouveau management, d'ailleurs. On va se tutoyer, on va aller faire du bowling, puis après, je vais t'annoncer que t'as 500 euros en moins à la fin du mois, quoi.
Non, mais même des gens qui travaillent 5 heures par jour travaillent mieux que des gens stressés qui bossent 8 heures par jour. Au niveau simplement de la productivité. Mais on ne va pas prolonger ce débat-là, ici, maintenant. Mais disons que je pense que c'est compliqué et qu'il y a peut-être du changement qui peut venir. Simplement, en fait, un capitalisme intelligent cesserait de presser ses employés comme des citrons, tout simplement. Mais,
Je ne suis pas sûre qu'il puisse y avoir un capitalisme intelligent.
Ben, c'est un grand débat, mais sûrement pas celui de ce soir.
J'ai envie de lire le début de ton texte, Barbara, ton texte qui s'appelle « Nous qui habitons vos ruines ». Et c'est en fait une série de questions comme ça qui vont assez vite. Je vais en lire un petit bout, c'est deux pages, mais j'en ai juste un petit extrait. Les petites faiblesses des autres vous agacent-elles? Combien d'ordinateurs avez-vous déjà utilisés dans votre vie? Que faut-il à une chambre pour qu'elle soit votre chambre? Pour vous, l'incarnation de l'homme faux serait le comédien, l'homme politique, le manager? Éprouvez-vous un sentiment de rupture nette entre les fictions et votre vie, entre vos désirs et votre vie? Pensez-vous qu'il puisse exister un lien entre Macbeth et l'écologie, entre Tartuffe et la politique, entre The Wire et la manif pour tous? Pourquoi? Que faites-vous lorsque vous êtes seul? Êtes-vous équipé d'un appareil photo numérique, d'une clé USB, d'un disque dur externe, d'une imprimante laser, d'un scanner, d'un dictaphone numérique, d'un courage à toute épreuve, d'un caméscope numérique, d'un baladeur MP3, etc., etc. Et puis ça se termine par « Seriez-vous favorable à la suppression des questionnaires? Si oui, pourquoi ?» C'était juste pour répondre un petit peu à cette idée de... du capitalisme, de l'accumulation des biens et puis de cette espèce de course en avant dans laquelle ça nous met. Alors là, j'ai envie de citer un petit texte que toi, tu as écrit, Jérémy, et qui peut-être nous permettrait de ralentir un peu les choses. Tu parles de ton rapport aux plantes et aux animaux. Tu dis « Pour cultiver mes relations avec les plantes et les animaux du milieu, j'essaie de les prendre en compte et de leur laisser de la place. Ici, un tas de branches pour loger les hérissons. Là, un hôtel à insectes ou une prairie à la place de la pelouse. Je prends même plaisir à râler quand les limaces dévorent les salades du jardin ou que les merles chipent des baies, des myrtilles. Parce que je considère ces prélèvements comme le prix à payer pour être membre du club. » Et dans ce cas, râler est satisfaisant parce qu'il signifie qu'en face, il y a quelqu'un et que nous avons une relation. Voilà le milieu. Je ne sais pas comment tu entends, Barbara, cette idée de, même du conflit ou de l'idée de râler, ça veut dire qu'on est deux et que ça existe.
Ah oui, oui, complètement. Enfin, je souscris à l'idée de fabriquer des hôtels pour hérissons, enfin, d'arriver à prendre en compte le fait qu'on n'est pas... exclusif, usager des lieux. Et c'est des espaces qu'on peut aménager peut-être plus facilement d'ailleurs quand on est dans des conditions plus rurales et plus difficilement en ville en fait, où les espaces qu'on peut transformer sont beaucoup plus restreints. Et moi, ça a été vraiment un des points sur lesquels le travail d'enquête sur le projet d'écriture de quoi hier sera fait a vraiment à choper, parce que je travaillais sur cette question-là des villes et aujourd'hui chercher un hérisson à Paris, c'est vraiment une sacrée quête, quoi. On peut marcher longtemps, mais parce que justement les espaces qui seraient des espaces de la jachère, qui seraient des espaces où il y aurait possiblement plus de désordre, mais un désordre qui serait pas celui de la destruction, sont beaucoup plus difficiles à trouver. Donc peut-être qu'il faut réouvrir des espaces de désordre choisis et hospitaliers dans les grandes villes.
Oui, c'est un luxe de pouvoir râler quand les merles chipent les myrtilles, parce qu'il faut déjà avoir
des merles et des myrtilles.
Mais c'est vrai, c'est toujours un grand plaisir quand je vois ces merles en train de s'enfuir comme des bandits et que je leur dis « Saper les popettes !» Le plaisir de pouvoir le dire tandis que l'oiseau s'envole, en disant... et ils reviennent dès que j'ai le dos tourné. On est d'accord. Et tout ça, c'est un luxe, c'est clair.
Alors, on va terminer sur cette belle description de du saperlipopette et des oiseaux voleurs. La prochaine émission de Station Debout, c'est le lundi 2 décembre à 19h, ici à l'ADC. J'accueillerai Loïc Touzé, qui est chorégraphe, et Marco Motta, qui est anthropologue. Soyez les bienvenus pour cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous remercier très chaleureusement, Barbara Métaïs-Chastanier et Jérémy Narbi. Et puis à remercier également Denis Rollet, notre technicien son, qui a également réalisé le jingle de cette émission.
Radio-Vostok.ch